9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, c'est à votre squelette. Ce matin, nous allons parler d'ostéoporose avec mes invités. Françoise Alluot-Launois est avec nous. Bonjour et bienvenue, Françoise.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'AFLAR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, AFLAR?
Ça veut dire Association française de lutte antirhumatismale et qui représente toutes les maladies, tous les patients atteints de maladies ostéo-articulaires et rhumatismales, dont l'ostéoporose, l'arthrose, la spondylarthrite, le sapho, le rhumatisme psoriasique, etc., etc., le mal de dos, bien sûr, et les troubles musculo-squelettiques, et bien sûr, la douleur, puisque c'est le marqueur de ces maladies chroniques et invalidantes.
Et à noter que vous êtes une association d'un âge respectable.
En effet, c'est une très vieille dame, la FLAR. C'est une des premières associations en France, et elle a été fondée en 1928. Elle est reconnue d'utilité publique, et on est très heureux, évidemment, de cela, parce que c'est une responsabilité que d'être une association de malades. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une histoire ensemble avec les malades et de la poursuivre comme nous le faisons maintenant en 2022.
Alors avec nous, avons le professeur Christian Roux. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue, professeur des universités et vous pratiquez à l'hôpital Cochin à Paris, au pôle ostéo-articulaire. Alors on va parler ce matin de cette maladie qui est mal connue du grand public, l'ostéoporose, souvent associée à une maladie de, je mets des guillemets, hein, de vieux ou exclusivement féminine. Alors qu'est-ce que c'est, professeur, que l'ostéoporose? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ostéoporose?
Eh bien, ostéoporose, comme on peut le deviner, signifie que les os sont poreux, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragiles. Et l'ostéoporose est une maladie osseuse qu'il faut bien différencier de l'effet de l'âge, bien entendu. Ce n'est pas une simple conséquence du vieillissement. C'est une réelle maladie osseuse qui rend les os fragiles. Ils vont donc se fracturer pour des traumatismes minimes. Alors, ça va de chute de sa hauteur à éternuement ou secousse brutale dans un transport en commun, etc. Tout ça va provoquer des fractures sur un squelette fragile. Et vous avez évoqué d'emblée le problème de l'âge. J'insiste sur le fait que, bien sûr, qu'elle est plus fréquente après 50 ans, bien sûr qu'elle est plus fréquente chez les femmes, mais elle concerne aussi des gens beaucoup plus jeunes et des hommes.
Mmh. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'os est vivant.
Alors, l'os est un tissu très vivant. On a souvent en tête l'image du squelette accroché à un clou dans une salle d'anatomie pour les étudiants, quelque chose comme ça de très fit. En réalité, c'est un tissu vivant qui se remodèle en permanence, et on peut dire, sans se tromper, qu'environ 10% de notre squelette est détruit et reconstruit chaque année.
Au bout de 10 ans, on fait un nouveau squelette.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre squelette est là pour nous porter et pour assurer un certain nombre de fonctions de régulation du calcium, etc., etc. Et pour ces fonctions, il a besoin d'être en forme, il a besoin d'être compétent, et donc il se renouvelle en permanence.
Le problème, effectivement, de l'os, il se renouvelle en effet en permanence, comme vient de le dire Christian Roux, mais notre civilisation aussi fait que nous sommes atteints de sédentarité, on va le dire ainsi. Nous ne bougeons pas suffisamment, nous ne marchons pas suffisamment, nos activités physiques sont réduites. L'OMS a publié il y a assez peu de temps un chiffre terrible qui montre que dans nos pays civilisés, nous marchons 300 mètres par jour en moyenne. Donc c'est un vrai problème, c'est une des raisons pour lesquelles l'os va se fragiliser.
Alors, notre os, moi je reviens sur notre squelette, hein. Ce squelette, ça représente quel pourcentage du poids de notre individu?
Alors, ça ne représente pas beaucoup en termes de poids, bien sûr, par rapport au poids moyen, de poids corporel qui comporte tous les muscles, tous les organes internes, etc. Et en plus, cette répartition en proportion est très variable. L'extrémité céphalique, la tête, représente un poids très important. C'est une extrémité osseuse extrêmement lourde. D'autres vont être plus légères. Et je voudrais vraiment répondre ainsi. Pour insister sur le lien qui existe entre l'appareil musculaire et l'appareil squelettique, c'est pour ça que dans nos spécialités, on parle souvent d'appareil musculo-squelettique, parce que ces deux tissus s'intriquent et le poids de l'un va dépendre du poids de l'autre. On a ainsi une augmentation du poids de l'os lorsque l'activité physique est importante et à l'inverse, une diminution.
Je regardais les chiffres, hein, ça représente à peu près 15% du poids du corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, professeur?
Oui, ça paraît même, ça paraît même beaucoup. Le poids du corps va être un des déterminants et il y a un lien entre les deux. Hein. Vraiment, j'insiste sur ce point. C'est-à-dire que lorsque l'on prend du poids, la densité a tendance à augmenter et lorsque l'on perd du poids pour des raisons volontaires ou malheureusement involontaires, ce poids du squelette va diminuer.
Alors, au cours de la vie, qu'est-ce qui se passe avec nos os?
Alors, il faut distinguer deux éléments. Il y a la croissance. Tout le monde sait qu'on grandit, on arrête de grandir, etc. Ça, c'est la croissance en taille. Et puis, il y a la croissance en solidité, la croissance en masse osseuse. Donc, cette masse osseuse va augmenter jusqu'à l'âge de 20 ans environ, puis elle va rester stable de 20 ans à 50 ans chez les femmes, un peu plus loin chez les hommes. Et puis, à partir de la ménopause, il va y avoir une diminution de cette masse osseuse. Donc, il y a vraiment trois phases. Il y a l'acquisition de du pic qu'on appelle le capital osseux qui se fait jusqu'à l'âge de 20 ans.
À 20 ans, c'est là où il est au maximum?
Absolument, entre 20 et 25 ans.
D'accord.
Ça dépend de plein de choses, mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que tout élément de santé et toute agression possible par certains médicaments, par certaines maladies avant l'âge de 20 ans va avoir un retentissement sur ce capital osseux de départ. Puis il sera maintenu. Et puis la perte ensuite est inéluctable à partir de 50 ans, lente et progressive liée à l'âge, et puis plus rapide et plus importante liée à la carence en hormones de la ménopause. Et bien sûr, donc un peu plus tard chez les hommes.
Alors, et expliquez à nous tous ce que ça veut dire que de la perte osseuse. Je vous dis qu'elle est inéluctable. Quand on dit qu'on a une perte osseuse, ça veut dire quoi? C'est qu'on perd de l'os?
Absolument. Ça veut dire que l'os se résorbe. Il faut imaginer un système de résorption, donc de destruction progressive de ce tissu qui est à la fois une matrice et puis du minéral. Donc petit à petit, en effet, c'est une réelle perte de la quantité d'os. Alors bien entendu, ça se fait à des échelles qui sont très très petites, mais comme ces échelles sont multiples dans le squelette et puis qu'elles sont permanentes à partir d'un certain âge, le total peut aboutir à des pertes très importantes.
Alors notre capital osseux, notre masse osseuse, qu'est-ce qui se passe quand intervient le phénomène d'ostéoporose?
Alors, le phénomène d'ostéoporose va s'accompagner d'une diminution de la masse, donc de la quantité, et aussi d'une diminution de l'architecture interne, donc de la qualité. La résorption, vous voyez, la destruction va entraîner cette disparition progressive de certaines travées. Peut-être peut-on comparer certains os à une éponge. Vous voyez, une éponge, elle est plus ou moins poreuse. Eh bien, imaginez que petit à petit, les pores, les trous au sein de cette éponge s'agrandissent, finissent par se coaliser, de sorte qu'on voit bien que les parois internes, ainsi, se trouvent détruites, d'où la fragilité.
D'accord. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais il y a des personnes qui vous disent « Mais tu sais, moi j'ai des gros os, j'ai un gros squelette. » Donc, est-ce que ça veut dire que les gens qui ont des gros os, par exemple, ils sont moins concernés que les autres par cette perte en capital osseux?
Bien entendu, c'est la grande injustice de la génétique, c'est-à-dire que l'on démarre dans la vie avec un capital osseux très élevé, d'autres avec un capital osseux plus basse. Il y a des masses osseuses basses familiales, des situations familiales, constitutionnelles, de densité osseuse basse. Alors, il faut faire très attention de ne pas confondre cette situation constitutionnelle avec une maladie. Hein, certains ont un morphotype réduit. Je vais dire les choses de manière caricaturale, mais chez une femme très mince, voire maigre, de petite taille, on peut voir des masses osseuses basses, mais qui finalement sont adaptées à son squelette, adaptées à sa morphologie. Ce n'est pas forcément une maladie. Là, on va faire intervenir quelque chose d'important, qui est la variation dans le temps. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une phase d'acquisition, de maintien, puis de perte. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut maintenir ce capital osseux le plus longtemps possible?
Voilà. Quel est le rôle des hormones et quel est le lien entre les hormones et les os?
Alors, ce rôle est absolument fondamental, essentiellement les œstrogènes, mais d'autres hormones vont agir, comme la parathormone ou les hormones thyroïdiennes. Il y a énormément d'interactions entre le système hormonal et le système osseux. Là, le plus important à retenir, je crois, en dehors des maladies, c'est le rôle de l'imprégnation par les œstrogènes. C'est-à-dire qu'à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, les œstrogènes vont maintenir la masse osseuse. Et d'ailleurs, il est important de savoir que chez l'homme, l'hormone mâle est transformé en œstrogène pour protéger l'os. Donc c'est vraiment l'hormone essentielle. La conséquence, il faut bien retenir, c'est que en cas de carence en hormones, on va avoir des conséquences osseuses immédiates, ce qui signifie en pratique l'arrêt des règles pendant plusieurs mois, puis la ménopause, surtout si elle est prématurée, 45 ans, voire plus jeune, va avoir des conséquences sur l'os, puisque c'est vraiment, les œstrogènes sont l'hormone qui empêche cette dégradation que nous avons décrite tout à l'heure.
C'est passionnant. On va essayer d'être très clair ce matin pour vous expliquer effectivement ce que c'est que cette ostéoporose dont on parle ce matin avec mes invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle de l'ostéoporose ce matin, une maladie silencieuse qui touche un très grand nombre de personnes. On n'en parle pas jusqu'au jour où on glisse, où on tombe, et bim, c'est la chute et c'est la fracture. Alors on parle de l'ostéoporose avec mes deux invités ce matin, Françoise Alliou-Launois, qui est présidente de l'AFLAR, l'association française de lutte anti-rhumatisme mâle, une association de malades, vous nous avez dit tout à l'heure, et qui a même élaboré un questionnaire d'évaluation du risque d'ostéoporose.
Oui, tout à fait. Ce questionnaire s'appelle le voleur d'os. Il existe sous forme papier et il existe évidemment sous forme de e-santé. On peut le remplir en allant sur notre site. Donc le voleur d'os. Et le voleur d'os va justement chercher à travers un jeu de questions très simple de permettre aux femmes, aux 4 millions de femmes et aux millions d'hommes qui sont atteints d'ostéoporose et les autres qui en sont à risque, va leur permettre, à travers ces questions, de voir quelles sont les hauteurs de risque qu'ils courent si, par exemple, ils ne mangent pas suffisamment de laitage, si, par exemple, ils ont des problèmes d'équilibre, s'ils ont un parent qui a lui-même été touché par l'ostéoporose et en particulier les fractures. Voilà, donc ce questionnaire-là va donner une idée de cette maladie ostéoporose, puisqu'on sait qu'il y a des facteurs à la fois qui sont familiaux, génétiques on pourrait dire, des facteurs environnementaux, et en particulier les apports de calcium, de vitamine D, et puis aussi des risques qui sont liés au fait que l'on est caucasien ou asiatique, on a plus de chances de souffrir d'ostéoporose et de fractures qui en sont le symptôme que si on est d'une race différente.
Et le professeur Christian Roux est avec nous. Vous êtes professeur rhumatologue et vous exercez à l'hôpital Cochin à Paris. Professeur, est-ce que c'est normal de rapetisser avec l'âge ?
Non.
Ah bon ? Alors, je croyais qu'avec l'âge... ma grand-mère disait toujours, tu sais, avec l'âge, on se tasse.
Oui, oui, absolument. Alors, c'est une expression que je déteste. On se tasse parce que souvent, ceci est assimilé à une évolution normale liée à l'âge, etc. Donc, je vais essayer de nuancer ma réponse. Bien sûr qu'on peut perdre de la taille avec l'âge, puisque les disques situés entre les vertèbres se déshydratent, s'abîment plus ou moins en fonction de l'activité physique, de paramètres génétiques, etc. Bref, la hauteur des disques entre les vertèbres, les ressorts entre les vertèbres tend à diminuer avec l'âge. Donc ceci va entraîner une perte de taille. La deuxième chose, c'est les muscles qui nous permettent de tenir droit, qui nous permettent d'avoir des courbures harmonieuses de la colonne, vont s'altérer aussi avec l'âge et donc peut-être favoriser une anomalie des courbures, par exemple l'arrondissement du dos, le fait de se voûter. Tout ça correspond effectivement à la possibilité de perdre 1, 2, voire 3 centimètres, qui sont des conséquences inéluctables de l'âge. En revanche, il est absolument anormal de perdre 4, 5 ou plus, et j'ai des patients qui ont perdu 15, 20 centimètres, et là, on ne joue plus sur ces ressorts entre les vertèbres, on parle du corps de la vertèbre lui-même, qui va se tasser, c'est-à-dire se fracturer. Il faut bien comprendre qu'un tassement de vertèbre, c'est une fracture de vertèbre. C'est exactement l'équivalent d'une fracture du col du fémur, etc. Voilà. Et donc, cette réduction de la hauteur de chacun des corps de vertèbres va entraîner de son côté une perte de taille. Ouais. Mais là, je vous dis, on passe à des seuils de 4, 5, 6 centimètres au plus.
Alors, Françoise parlait tout à l'heure de voleurs silencieux. Est-ce qu'il y a un stade avant la maladie, avant l'ostéoporose ?
Alors il y a un stade où en fait, avant que les signes apparaissent, on a parlé de la perte de taille par rapport à l'âge de 20 ans, et on sait qu'à partir de 3 centimètres, quand on commence à se tasser, c'est déjà un signe que les vertèbres souffrent et qu'elles ont tendance à s'écraser, en particulier dans la partie avant, ce qui fait que la personne va tout simplement se voûter légèrement. Alors donc ça, c'est évidemment très important. Et par ailleurs, des signes d'appel qui peuvent être, sans qu'il y ait eu notion de, avec des radios, de regarder si les vertèbres sont tassées, des douleurs de dos, des dorsalgies, des lombalgies, et qui souvent vont être traités par des médicaments et puis par de la rééducation pendant des années sans que le diagnostic soit posé. Et ça, c'est un vrai véritable problème. Il y a une banalisation de cela, et il arrive que des femmes qui ont été diagnostiquées, qui s'adressent à l'association, nous expliquent qu'elles souffraient en fait depuis l'âge de 40 ans, 45 ans, de dorsalgie ou de lombalgie, de mal de dos, ce qu'on appelle le mal de dos, et puis que pendant 10 ans, avec des douleurs souvent terribles, avec des médicaments souvent forts, évidemment pour pouvoir arriver à vivre malgré tout et à marcher, eh bien en fait, le diagnostic a été extrêmement retardé. Et il est retardé parce qu'il y a une banalisation de cette maladie, une banalisation de ces signes, notamment donc concernant l'ostéoporose vertébrale, mais de la même façon concernant les fractures. Je prends un exemple très simple. Là aussi, c'est l'histoire des adhérentes et des adhérents de la FLAR. Les femmes, très souvent, à 48 ans, 50 ans, donc jeunes, elles sont en pleine action, elles sont mères, peut-être certaines déjà grand-mères d'ailleurs, mais mères, elles ont une activité professionnelle, et puis en effet elles glissent de leur hauteur, elles trouvent toujours une raison, j'ai glissé à cause de la laisse du chien, ou j'ai glissé sur la glace, sur la neige, ou j'ai dérapé sur une marche d'escalier, je me suis fracturé le poignet, je me suis fracturé la cheville, je me suis fracturé l'épaule, et elles font un passage aux urgences, ces femmes-là. Elles ne sont pas hospitalisées. Et elles rentrent chez elles le soir en disant « Ouf, voilà, j'ai un plâtre ou j'ai une écharpe, tout va bien. » Et d'ailleurs, on sait que plus de 60% de ces femmes-là ne signalent pas à leur médecin traitant qu'elles ont une fracture. Et donc, la fracture, qui est un signe extrêmement puissant de la fragilité de l'os, donc qui se casse, finalement, très banalement, sur un geste très banal, eh bien, cette fracture passe inaperçue. Et pourtant, l'ostéoporose est déjà présente et elle va continuer, évidemment, de s'aggraver, de continuer de fragilité de l'os, et d'ailleurs, de reproduire une autre fracture dans l'année qui suit ou dans les deux années qui suivent pour 50% de ces femmes. Ça s'appelle la cascade fracturaire.
Et l'ostéopénie, professeur, qu'est-ce que c'est? C'est le stade d'avant?
L'ostéopénie est un terme qui est utilisé dans les études cliniques, dans les études épidémiologiques, qui n'est pas du tout un terme de médecine. Je crois que c'est pas du tout à utiliser.
C'est pas le stade d'avant l'ostéoporose, en fait.
Non, on peut pas dire ça. Certains vont rester ostéopéniques toute leur vie. Non, c'est pas du tout un bon terme. Notre avis, c'est vraiment ostéoporose, oui, non. Il faut qu'on soit très binaire et très simple si on veut faire passer
des bons messages. Où on l'est, où on l'est pas,
on est à risque.
Où on est à risque.
On peut être à risque. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une densité osseuse correcte, mais on a une maladie grave, on prend de la cortisone, on fume, etc. On accumule un certain nombre de facteurs de risque qui fait que le risque d'avoir un jour une fracture est très important. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé, qui est très banal, mais qui, je crois, devrait être abandonné. C'est la maladie silencieuse. Alors, en effet, la dégradation osseuse dont nous avons parlé avec cette destruction progressive de l'os, c'est un phénomène absolument indolore. On ne le sent pas du tout. En revanche, et c'est ce qu'on vient de décrire largement, l'événement fracturaire est extrêmement douloureux, surtout s'il se répète. Sur le rachis, il y a plusieurs fractures, on finit par avoir des douleurs permanentes, etc. Donc l'ostéoporose est une maladie, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle est active, lorsqu'elle est au stade de maladie, est une maladie douloureuse.
Alors, quel est l'examen, professeur, qui permet de poser un diagnostic et à partir de quel moment on peut avoir recours à cet examen?
Alors, l'examen clé, c'est la mesure de la masse osseuse dont on vient de parler. On a bien compris que c'est cette quantité d'os qui va déterminer la solidité, on a la chance aujourd'hui de pouvoir la mesurer. Enfin, aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, on sait mesurer cette masse osseuse par une technique absolument non invasive. Il n'y a pas d'injection, pas de prélèvement, on ne touche à rien, il n'y a pas besoin d'être à jeun. C'est une sorte de radiographie très rapide qui permet d'avoir une mesure extrêmement fiable de la quantité de minéral dans l'os. Et on mesure la colonne vertébrale et le col du fémur, ce qui nous donne ainsi l'accès à la solidité ou la fragilité de deux os absolument essentiels dans la fragilité. Donc ça, c'est une mesure extrêmement fiable.
D'accord. Ça donne quoi comme genre de chiffre, professeur ? Moi, je suis curieux.
Par exemple, 0,636 grammes par centimètre carré, ce qui est complètement ininterprétable. Ouais. Et donc, on va comparer cette valeur. En fait, la machine compare de manière automatique cette valeur avec le pic de masse osseuse dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et l'Organisation mondiale de la santé a défini des seuils, un seuil, à partir duquel on estime que lorsque la différence entre ce qu'on mesure et le pic théorique de masse osseuse, c'est-à-dire le squelette idéal, le squelette de 20 ans, celui qui est solide et qui ne casse pas, lorsque cet écart dépasse un certain seuil, eh bien on estime que la maladie ostéoporotique est installée. Mais ce n'est pas forcément une décision thérapeutique derrière, puisque on a beaucoup parlé d'un élément très important depuis le début de cette émission, qui est la notion de risque. Et de la même façon, on ne mesure pas la densitométrie de façon systématique aujourd'hui. On fait cet examen lorsqu'on estime qu'il peut y avoir un risque. Par exemple, une ménopause prématurée, un poids trop faible, une fracture récente, un antécédent maternel. Il y a toute une série de listes comme ça de choses qui doivent attirer, qui doivent alerter et déclencher la réalisation de cet examen.
D'accord. On ne va pas chez son médecin en disant « Ouais, je voudrais bien faire une densité.
Non, ça, ce n'est pas de la bonne médecine. Il faut d'abord estimer le risque. Et je crois que c'est au médecin qui, devant un certain nombre d'éléments de risque, voire de signes alarmants, on a évoqué tout à l'heure une fracture du poignet, de l'épaule, etc., pour une simple chute de sa hauteur. Là, tout de suite, il faut déclencher cette mesure de la densité pour évaluer la gravité du déficit osseux.
Alors, on parle de prévention ce matin jusqu'à 10h. On va revenir avec mes invités, justement, sur les acteurs de prévention. Françoise Alliot-Launois est notre invitée, présidente de la FLAR. Et puis, le professeur Christian Roux est avec nous au téléphone.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Nous parlons d'ostéoporose ce matin avec mes invités. Françoise Alliot-Launois est avec nous. Vous êtes présidente de l'Association française de lutte anti-rhumatismale et le professeur Christian Roux, qui est rhumatologue, est avec nous également. Vous vouliez revenir sur l'examen dont on parlait tout à l'heure avant la pause, Françoise.
Oui, l'ostéodensitométrique, c'est un examen, évidemment, on l'a vu, très pertinent. Le problème actuel, c'est que il est insuffisamment indiqué finalement chez les femmes qui se fracturent notamment, mais chez les hommes aussi. On sait que seuls 10% de ces femmes et ces hommes fracturés vont pouvoir avoir une ostéodensitométrie. Il y a un problème en effet de parcours d'ostéoporose sur lequel évidemment nous travaillons ensemble, main dans la main, l'association de malades et les médecins, parce que ce parcours pour l'instant n'existe pas suffisamment. Les malades atteints de fractures d'ostéoporose habitent dans la ville, ils sont chez eux. Il y en a assez peu finalement d'hospitalisés. Ceux qui sont hospitalisés, ce sont des personnes très âgées, très fragiles. Et la majorité des patients, par contre, comme je l'ai dit, retournent à leur domicile et n'ont pas donc de parcours ostéoporose devant eux. Donc il faut absolument que le grand public et les personnes fracturées bénéficient d'informations, de campagnes, de dépistage de l'ostéoporose et notamment après fracture, grâce à l'ostéodensitométrie.
D'accord, mais est-ce que tant qu'il n'y a pas fracture, il n'y a pas ostéoporose, professeur Roux ?
Il peut y avoir ostéoporose sans fracture, bien entendu. Il peut y avoir une situation de masse osseuse basse altérée par certains médicaments, ou par certaines situations. Je vais donner des exemples qui sont très simples et connus de tous. Une ménopause à 40 ans va entraîner forcément une perte osseuse beaucoup plus rapide et donc un risque d'ostéoporose. Une intoxication tabagique. Le tabac est extraordinairement toxique pour l'os. Les sujets qui fument sont plus maigres et ont une plus grande fragilité osseuse. Et puis, il y a un troisième médicament que chacun connaît, c'est la cortisone. La cortisone est un médicament formidable, mais dont, à certaines doses, il peut y avoir des complications diverses, y compris des complications osseuses. Donc voilà des situations dans lesquelles on peut avoir des ostéoporoses avant la fracture, et cette situation doit bien sûr être dépistée. En revanche, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il est inutile de réclamer une densitométrie pour voir à 50 ans. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens.
La probabilité d'avoir une ostéoporose à cet âge-là, sans facteur de risque massif et évident à côté, est tellement faible que l'examen est inutile. Discuter d'une ostéoporose systématique dans un contexte de consultation du bien vieillir, comme on en a parlé un moment, dans une consultation un peu complexe où on évalue l'ensemble des facteurs de risque liés au vieillissement à partir de 65-70 ans, ça c'est quelque chose sur lequel on peut discuter en termes de santé publique. Mais voyez, dans un contexte plus large d'évaluation de l'ensemble des risques à venir chez certains individus à partir d'un certain âge, mais certainement pas une densitométrie pour voir et pour se faire une idée.
Françoise.
Oui, tout à fait d'accord, c'est bien après une fracture, il faut vraiment la faire. Et en tout cas, je voudrais quand même dire que pour les patients qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire et qui en effet sont parfois traités, même assez souvent, à base de corticoïdes, et c'est évidemment des patients qu'il faut suivre tout particulièrement. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, atteints de SAFO, atteints de spondylarthrite.
SAFO, qu'est-ce que c'est que SAFO?
SAFO, c'est une maladie qui ressemble à la spondylarthrite, mais avec des signes cutanés, hein, qui est assez rare, c'est une maladie rare. Et puis le rhumatisme psoriasique aussi. Donc tous ces traitements à base de corticoïdes, notamment, font qu'il faut une attention particulière, de la même façon pour les patients qui sont allergiques et qui sont traités comme les asthmatiques, par exemple, ou certaines allergies respiratoires. Ce sont des patients pour lesquels il faut accorder une attention particulière et qui sont à risque, eux.
D'accord.
Aussi.
Donc, parler de prévention pour les patients que vous venez de citer, c'est-à-dire, c'est faire quoi?
Eh bien, justement, c'est les surveiller. Peut-être, en effet, le médecin va pouvoir être amené à veiller tout particulièrement, peut-être à prescrire un examen s'il le juge nécessaire, à veiller à ce qu'il y ait une alimentation chez ces patients particulièrement axée sur les besoins en calcium et en vitamine D. Bref, il faut aussi avoir un regard préventif de l'ostéoporose chez ces malades.
Alors, la question qui revient souvent, professeur Roux, c'est est-ce que l'ostéoporose est réversible?
Alors, j'essaie toujours de répondre de la manière la plus directe possible. Je veux dire que oui. C'est-à-dire que la fragilité osseuse détectée au diagnostic peut être améliorée, peut être diminuée, et on peut, de façon importante, diminuer le risque de fracture. Voilà. C'est vraiment l'élément. Alors, il faut que nos auditeurs comprennent bien que l'objectif n'est pas seulement de remonter la densité osseuse. Il ne faut pas être scotché à son chiffre de densité osseuse en disant, puisque maintenant il y a certains codes couleurs proposés par les fabricants, je suis dans le rouge, je veux revenir dans le jaune, etc. Tout ça n'a pas de sens, puisque la densité osseuse va s'adapter, encore une fois, à la morphologie, au contexte, etc. Bref, le but n'est pas seulement de remonter la densité osseuse, qui n'est qu'un marqueur d'efficacité des traitements, c'est vraiment d'empêcher le risque de fracture. Et dans ce sens-là, oui, ça sert à quelque chose, et oui, on peut réduire de façon importante le risque de fracture et le risque de récidive de fracture par des traitements pharmacologiques et par des traitements adjuvants qui ont toute leur place, bien entendu.
Mais je vais vous poser la question différemment. Comment est-ce qu'on peut renforcer la solidité de ces os?
Alors, vous savez que je vais répondre de manière très indirecte. Vous savez que nos astronautes, très célèbres, perdent beaucoup d'os.
Quand ils sont dans l'espace, ouais.
Absolument. C'est un des problèmes des voyages dans l'espace, et c'est probablement même, avec la céphalée, la principale limitation des voyages qu'on prévoit sur la Lune, sur Mars, etc., etc. C'est la perte de masse osseuse. Pourquoi? Parce que, en apesanteur, le squelette n'a plus besoin de porter le même poids, et donc il diminue. Et donc, je donne cet exemple qui est une caricature et qui concerne un nombre extrêmement réduit d'individus pour bien dire à quel point l'activité physique, l'activité musculaire, la traction musculaire vont être des éléments très importants de la prise en charge. C'est un traitement adjuvant seulement lorsque la maladie est déclarée avec des fractures, mais c'est un élément très important à prendre en compte car quand on est fragile, souvent il y a une sensation de fragilité qui fait qu'on limite au maximum les mouvements, ce qui est l'inverse de ce qu'il faut faire pour son squelette.
Donc, et c'est pour ça que les astronomes, quand ils reviennent sur Terre, ils récupèrent, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ensuite,
ils récupèrent, ouais. Alors d'abord là-haut, ils font plein d'exercices pour essayer de maintenir leur masse osseuse le plus possible. Vous avez bien vu que quand ils sortent des capsules, ils sont capables de marcher, et petit à petit, ils vont se récupérer. C'est l'exemple, encore une fois, c'est la caricature, n'est-ce pas? Et on a la caricature inverse chez les sportifs, les haltérophiles, etc., qui ont au contraire des masses osseuses qui peuvent augmenter. Donc, ce sont ces situations caricaturales qui nous permettent de savoir que pour un individu donné, son activité musculaire va être un déterminant important.
D'accord. Donc, quand on en souffre, on continue à faire du sport et c'est pas l'inverse.
Exactement. Alors, des sports adaptés à son état de santé, oui. Des sports avec l'adaptation au risque éventuel, mais en tout cas, l'activité physique et l'activité musculaire sont extrêmement importantes.
Françoise.
Oui, tout à fait d'accord, l'activité physique est importante, et en particulier, l'activité physique qui va exercer des pressions et des tractions sur l'os. Je veux dire par là que l'os va avoir en écho la capacité de reconstruire quand il entend qu'on tire sur lui ou qu'on s'appuie sur lui. Et donc, ça veut dire pour les personnes qui sont à risque d'ostéoporose ou qui ont de l'ostéoporose, il faut que ce soit des activités physiques qui frappent, qui exercent ces pressions et ces tractions. La marche assez rapide, c'est une façon de faire, bien sûr. Les petits sautillements, les petits exercices donc avec ces pressions et ces tractions, mais le vélo aussi, très bien. Certains exercices à répétition aussi, avec des mouvements répétitifs. Tous ces exercices sont très très bons et vont pouvoir permettre de reconstruire l'os à côté des traitements qui sont utiles. Voilà, il faut le dire, il y a une méconnaissance de l'ostéoporose, de ce qu'elle est, il y a une méconnaissance aussi du fait qu'en effet, il y a des traitements et que l'activité physique va être vraiment un élément extrêmement important.
Alors ma grand-mère, toujours elle, que je reconvoque ce matin, disait « mange du calcium, c'est bon pour tes os ». Professeur Roux, est-ce que c'est l'industrie laitière qui a réussi à faire passer le message ou que c'est vrai ?
Non, c'est parfaitement vrai. On trouve de tout hein, sur Internet, l'industrie laitière, l'industrie des eaux minérales, certains gourous dans tous les sens. Non, il faut être raisonnable. Notre squelette représente une quantité importante de calcium. Ce calcium doit être fourni, il ne doit pas y avoir de carence. Il faut faire bien attention. On ne traite pas des maladies osseuses en donnant du calcium. Bien sûr que non. En revanche, les carences en calcium vont nécessiter la mobilisation du squelette en tant que réservoir. Le squelette est un réservoir de calcium. Par conséquent, si l'organisme manque de calcium, qui est dramatique pour le fonctionnement du cœur, du cerveau, des muscles, etc., alors il va le pomper sur le squelette. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre. Nous avons un réservoir et ce réservoir doit être alimenté. Donc le calcium doit être apporté par l'alimentation. Alors il y a les produits laitiers, mais il y a aussi les eaux minérales, éventuellement certains aliments. Enfin, ce sont surtout ces deux-là. Et dans l'idéal, évitons de prendre des comprimés de calcium, et essayons d'adapter notre alimentation.
Alors ma grand-mère la connaissait pas encore, hein, c'était la vitamine D, parce que eux, ils étaient naturellement dehors, exposés au soleil toute l'année. Quel est le rôle d'une vitamine comme la vitamine D dans l'ostéoporose ?
Alors la vitamine D, c'est ce qui permet d'absorber le calcium par l'intestin. Et c'est ce qui permet aussi d'améliorer la minéralisation, la fixation du calcium sur le squelette. Donc cette vitamine D est très importante. Là encore, attention aux faux messages. La vitamine D n'est pas une fontaine de jouvence. On a mis la vitamine D à toutes les sauces, la prévention de tout. C'est une espèce de molécule miracle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en cas de carence en vitamine D, l'os est mis à contribution et le muscle est moins efficace. Par conséquent, lorsque l'on est fragile, il faut absolument avoir une valeur optimale circulante de vitamine D. Et là, autant j'ai beaucoup insisté sur l'alimentation pour le calcium, autant je dois dire que pour la vitamine D, les apports alimentaires ne peuvent pas être suffisants. Il faudrait consommer des quantités absolument astronomiques de poissons gras pour obtenir la valeur souhaitée. Donc là, le recours à des molécules et à des médicaments est indispensable. Ils sont très peu chers, extrêmement bien tolérés et accessibles très facilement.
Françoise Alliot-Launois, on va terminer cette émission. Je voudrais qu'on revienne vraiment sur la prévention. Hein. Parler de prévention aujourd'hui, c'est quel message à faire passer à ceux qui nous écoutent ce matin ?
Le message à faire passer, c'est prenez soin de votre squelette, prenez soin de vos os. En tant que jeune adulte, bien sûr, on l'a vu dans l'enfance et l'adolescence, mais en tant que jeune adulte, puis jeune senior, et puis senior, et ça veut dire qu'en effet, il va falloir travailler sur, premièrement, être toujours actif physiquement, marcher le plus possible, régulièrement. Ça veut dire aussi travailler à garder un bon équilibre. Hein, il faut évidemment songer à la prévention des chutes. Quand on n'y veille pas, et bien on va chuter davantage. Donc il faut travailler son équilibre. Il faut prévenir aussi à travers un régime alimentaire équilibré. On l'a vu pour le calcium. D'ailleurs, on trouve du calcium dans d'autres substances comme la salade, les champignons. Pour ceux qui mangent végétariens ou véganes, il faut savoir qu'il y a du calcium aussi dans les végétaux et dans ceux que j'ai cités en particulier. Mais il y en a plein d'autres. Donc il faut vraiment être attentif à son alimentation équilibrée. Et puis des protéines aussi sous différentes formes. Là aussi, animales ou végétales, selon ses choix. C'est très important pour pouvoir aussi garder cet équilibre morphologique et ses muscles. Et puis, évidemment aussi, avoir l'idée que dès que l'on peut se mettre au soleil, les avant-bras, les jambes, parce que nous sommes dans un pays où il y a très peu de soleil, on est couvert, on vit couvert, eh bien, il faut le faire aussi. C'est très important d'avoir cette hygiène de vie.
Voilà, vous avez toutes les informations sur le site de la FLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatisme, avec beaucoup, beaucoup de dossiers, notamment sur l'ostéoporose. Merci d'avoir été avec nous ce matin, professeur Roux. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes très pris. Vous revenez
quand
vous voulez.
Merci à vous pour cette émission extrêmement utile.
Merci beaucoup émission... au nom des patients atteints d'ostéoporose.
Voilà, émission que vous réécouterez en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez sur la chaîne YouTube puisqu'elle a été filmée. Merci et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.